Il y avait un moment dehors que j'ai trouvé plutôt rigolo. Nous, on était là, on marchait très lentement. C'est un peu étrange, ces êtres humains qui marchent lentement, aller-retour, sur place. Puis tout à coup, du fond de la forêt ou là-bas, il arrive des gens avec des gros trucs sur le... qui marchent avec des gros trucs dans les pieds. Moi, je les regardais un peu, c'est étrange, qu'est-ce que c'est? Puis eux, ils nous regardaient, c'est étrange, qu'est-ce qu'ils font? Là, il est arrivé quelqu'un avec des grands bouts de bois dans les pieds qui s'en venaient comme ça. Je trouvais qu'on était tous étranges, tous des êtres humains en mouvement, assez étranges. Quand je suis sorti pour marcher, j'ai transposé un peu les quatre étapes de la respiration avec la marche. Je me demandais si je pouvais être généralement conscient que ce corps-là marchait. Puis ensuite, est-ce que je peux sentir les pas, chaque pas, comme un événement unique? Puis ensuite, je me demande si je peux suivre tout le pied qui se lève, qui pousse, qui se dépose. Puis à la fin, je me dis, bon, au point où on en est, est-ce que je pourrais utiliser la marche pour, avec l'idée, là, l'intention de calmer l'esprit, calmer le mental, quelque chose comme ça, d'apaiser. Donc j'ai utilisé la marche, un petit peu transposition des étapes de la respiration. Mais des moments où je m'arrêtais, puis je nous regardais un peu, puis j'avais l'impression, je me disais, ah, il y en a qui sont qui ont laissé l'univers des sons devenir très très vivant. Est-ce que vous entendiez les bruits reliés à la fonte de la neige? Ou l'univers de la vue, toute la luminosité qui est présente là. Ou l'univers des sensations, avec le corps qui bouge, qui se déplace. Est-ce que vous avez l'impression qu'il peut y avoir quelque chose là-dedans, qu'il peut y avoir une richesse là-dedans, dans un contact privilégié avec avec les choses, avec la réalité, là, en passant par les sens, entre autres les cinq sens. Mm-hmm. Je reviens souvent à l'histoire, je me raconte souvent ces jours-ci, ces mois-ci, l'histoire de celui qui allait devenir le Bouddha, mais juste avant qu'il trouve vraiment sa voie là, pour libérer son cœur ou son esprit de la confusion qui l'habitait, là, du doute, du désir constant d'autre chose, d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, que ça se passe un peu autrement. Alors juste avant qu'il trouve la voie qu'elle est le mener jusqu'à ce qu'on appelle l'éveil, là. Plusieurs d'entre vous vont connaître cette histoire-là de bon, il vivait une vie très privilégiée, là, une vie de recherche des plaisirs. Là. C'était un plaisir après l'autre, très protégé là-dedans. Ça marchait pas, ça fonctionnait pas, il n'y avait pas. Il n'y avait pas un aboutissement là, de se sentir complet. Il y avait un plaisir qui passait, un autre plaisir, puis il manquait quelque chose. Et là, il est parti dans une quête où est-ce qu'il est. Il s'est mis à faire des pratiques très, très exigeantes, très dures. Genre de workaholic. Sur une jambe toute la journée, un grain de riz, matelas de clous et autres expériences difficiles. Puis au moment où il allait, dans l'histoire, on dit au moment où il allait perdre connaissance, épuisé, peut-être à ce moment-là, il s'est rendu compte que la fin logique de cette pratique-là, c'était la mort. Qu'il n'y avait pas la liberté là-dedans. Et là, c'est le moment qui, moi, m'intéresse. il y a un souvenir qui lui traverse l'esprit. Il y a le souvenir d'un moment où il y avait, bon, l'histoire ne le dit pas exactement, mais quelque chose, je peux m'imaginer, moi, 8 ou 9 ans, où il était dans une situation où il se sentait en sécurité. Ses parents n'étaient pas très loin, c'était le printemps, un petit peu plus tard que maintenant, et il était à l'extérieur, dans un champ, sous un arbre, il y avait le soleil, un petit peu de vent, et puis, Gautama, qui a, je ne sais pas quel âge, là, il est dans la vingtaine, il vient de faire quelques années de pratiques extrêmement difficiles, il se rappelle qu'à 8 ou 9 ans, un petit moment comme ça, un flash qui lui traverse l'esprit, ah, je me souviens un jour, j'étais assis sous un arbre, et je faisais juste, simplement sentir le vent, sentir la température sur le corps. Il y avait quelque chose de très très naturel, comme un enfant naturellement va faire, s'intéresser, s'il se sent en sécurité, tout à coup va s'intéresser à des fourmis qui passent. Quelque chose qui est en train de se passer présentement. Bon. Être intrigué, s'approcher, sentir. Alors lui, un souvenir un peu comme ça. Ah oui, je suis assis sous un arbre. Les fermiers travaillent là-bas, il y a les oiseaux qui volent. Puis c'est comme si le temps s'arrête un moment. Puis cet enfant-là de 8-9 ans est intrigué par ce phénomène-là du temps qui s'arrête, d'une attention. Moi, je décris ça comme une attention soutenue, là, de qualité. Puis donc, l'homme épuisé là, se rappelle de ce moment-là, puis il se dit, ah, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Peut-être que c'est pas l'accumulation de choses, de plaisirs. Peut-être que c'est pas d'éviter tous les plaisirs et de chercher à tout prix, avec force et... quelque chose, mais peut-être qu'il y a une voie qu'on pourrait appeler la voie du milieu, là. La voie médiane. Où on s'arrête pour juste sentir le moment. D'une façon extrêmement simple. Et là, donc, la trajectoire change. Ce nouveau sentier, là, qui emprunte. Puis ensuite, on dit que les choses sont allées très très vite. Pas parce qu'il courait, mais parce qu'il avait ralenti, sans forcer. Plus tard, il dit dans un échange, il pose la question lui-même, il dit « Ah, vous vous demandez comment j'ai traversé les flots, là, les troubles qui nous traversent l'esprit là, pendant qu'on est assis ici ou qu'on marche. Quoi. Comment j'ai traversé les flots? Mais j'ai pas abandonné, parce qu'en abandonnant, je coulais, et j'ai pas forcé non plus. Parce qu'en forçant, j'étais emporté par les flots. Je n'ai pas abandonné, je n'ai pas forcé. C'est comme ça que j'ai traversé sur l'autre rive. » Moi, j'entends ça un peu comme des instructions. Alors, comment est-ce qu'on peut être ici ce week-end sans forcer et sans abandonner, sans partir dans les transes qui viennent nous accaparer là, dans lesquels on peut rester accroché, pris. Comment est-ce qu'on peut rester près de quelque chose d'extrêmement simple, le contact, je continue à vouloir absolument appeler ça le contact avec la réalité, pas des mondes fabriqués, des productions de l'esprit, des générations de l'esprit, des fictions, que ça semble être réel parce que c'est le vrai passé, c'est vraiment ce que cette personne-là m'a dit. Non. En ce moment, c'est une fabrication de l'esprit. Nous, on veut devenir pleinement conscient de ça. Cette personne-là n'est pas là en ce moment. C'est une génération de l'esprit. Est-ce qu'on peut être clair là-dessus, parfaitement conscient que l'esprit crée un monde en ce moment? Et revenir près des sens. Alors, reprendre ses sens, un livre de Jon Kabat-Zinn, là, je crois. Coming back to your senses. Pourquoi on ferait ça? Parce que j'ai l'impression qu'en étant plus sensible, puis encore une fois, la sensibilité, on veut la développer, mais au même moment où on développe la stabilité, les deux ensemble. Parce que si on est juste sensible, on va être comme complètement exposé, ça peut être très perturbant. Alors nous, en même temps qu'on développe la sensibilité, on développe la stabilité d'esprit. On calme le mental, on calme, on stabilise. Donc cette sensibilité-là, d'après moi, va nous permettre de lire plus complètement ce qui se passe, les situations. Pouvoir sentir au lieu de lire d'une façon habituelle, automatique, systématique. « Ah! C'est ce qui se passe, je sais! » On va très vite conclure, très vite, on peut lire plus profondément. Ce qu'on appelle l'intuition, avec une lecture plus sensible des choses, je peux voir qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui est en train de se passer. Pas juste mes idées sur ce qui se passe, mais sentir. Puis quand je fais ça, tout de suite, ça me rappelle, ah oui, quand j'ai une écoute plus complète, ça me donne accès à mon intégrité, à mes valeurs. Quand je suis dans l'automatisme, le systématique, la réactivité, c'est des conditions parfaites pour que les valeurs prennent le bord, comme on dit chez nous. Dans le champ, les valeurs disparaissent. Alors, quand il y a de la présence ou sensibilité, avec de la stabilité, du calme, de l'attention, de la non-réactivité, l'absence de réactivité, la lecture peut être plus complète. Et là, on dit que même la sagesse, qui est toute neuve, toute fraîche, un peu fragile, on a accès à ça. Alors que quand on est dans la façon habituelle de vivre, même la sagesse profonde, les choses qu'on connaît bien, on n'a plus accès à ça, parce qu'on est dans des automatismes. Ça, comme vous savez, toutes les idées qui sont présentées ici, ça c'est vraiment dans la tradition bouddhiste, là, on est invité à ne pas y croire. On n'est pas dans un système de croyance ici. On présente des idées et là, on vérifie par nous-mêmes si c'est vrai ou pas, si ça vaut quelque chose dans notre vie. Moi, c'est ce que j'aime de cette pratique-là. J'ai l'impression que le Bouddha, c'est quelqu'un qui a dit « Hey, je vais te montrer une façon de t'approcher de la réalité pour que tu vois par toi-même un système, une méthode d'indépendance. Tu n'es pas à croire personne. Tu puisses voir pour toi-même qu'est-ce qui mène à quoi. » Alors, les idées que moi je présente tout le week-end, là, évidemment, c'est peut-être déjà entendu, mais c'est bon de le répéter. C'est des propositions, des idées. Puis là, après, c'est à nous de voir qu'est-ce que ça vaut, ça. Puis tout tourne autour de cette technique-là où notre attention devient une attention de haute qualité pour qu'on puisse voir pour nous-mêmes. Encore pour répondre à la question, pourquoi être attentif, pourquoi faire ce qu'on fait, là, cette attention-là au sens? Parce que, d'après ce que je comprends, quand il y a ce soin-là qu'on apporte à ce qui se passe présentement, il y a comme un sillon de qualité là, qui suit ça. Alors, quand on prête attention, l'esprit risque de se calmer un peu, de se stabiliser, mais aussi de devenir curieux, intrigué par ce qui se passe, engagé. Une autre version, ce serait de marcher à l'extérieur. Par exemple, vous avez peut-être eu cette expérience-là, en train de faire la marche méditative, Et là, l'impression, c'est mais pourquoi je suis obligé de marcher encore? Combien de temps je dois marcher encore? Alors ça, c'est un état mental très difficile. Et nous, ce qu'on fait avec cette pratique-là, c'est que tout à coup, c'est pas comme si je devrais pas sentir ça. C'est si, par exemple, je deviens conscient que c'est ce qui m'habite, c'est la façon dont je me meus, je peux devenir intéressé par ça. C'est la pleine conscience. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quel est l'état mental de celui ou celle qui marche? J'en peux plus. Je suis forcé de faire ça. Puis là, je deviens intéressé. Ah, qu'est-ce que c'est cette attitude-là? Je ne suis pas obligé d'en avoir une autre. Celle-là est très, très bien. C'est excellent pour la pratique. Je peux sentir, ah, qu'est-ce que c'est cet état-là? Ça, c'est quelque chose probablement auquel j'ai accès à d'autres moments dans ma vie. Comme un genre de rejet de ce qui se passe. Okay. Je ne veux pas mettre de mots dessus, c'est vous qui allez mettre un mot peut-être sur votre expérience, mais dans la pratique, on devient intéressé par ce phénomène-là. Et là, oups, il y a une révolution qui se passe, là. Au lieu d'être dans la réactivité, ou l'esprit qui est braqué. Ah, oh, moi, je ne ferais pas ça comme ça. Puis là, on a, ah oui, qu'est-ce que c'est que d'être quelqu'un qui marche sous le soleil pendant que la neige fond, etc., avec un esprit qui s'est braqué, là, qui s'est positionné, avec une opinion ferme sur ce qui devrait se passer, qui ne se passe pas. Et là, on peut tout à coup, peut-être, si on n'est pas trop pris dans la transe, puis qu'on est capable d'aller chercher un peu de pleine conscience, d'inviter un peu d'intérêt pour ce qui se passe, nommer, reconnaître ce qui se passe, oups, on peut voir, on peut sentir. Puis là, c'est tout le côté intuitif qui embarque, là. Où est-ce que, en étant pleinement conscient, on sent intuitivement, ça devient très très clair, parce qu'on baigne dedans avec pleine conscience, ça devient très clair quelles attitudes sont enchaînantes et lesquelles sont libératrices, lesquelles sont bénéfiques et lesquelles sont nuisibles. Dans la pratique, il y a beaucoup, beaucoup de ça qu'on fait. C'est plus tellement ce que je veux ou ce que je veux pas, c'est comment je suis ici en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Est-ce que cette attitude-là est aidante ou non? Puis là, il n'y a pas le jugement, là. Ah, c'est une attitude nuisible, je ne devrais pas encore dans cette attitude nuisible. C'est pas comme ça, on est intéressé par l'attitude. On y touche, on baigne dedans. Alors, une des qualités qui peut naître dans le sillon de l'attention, par exemple, parce que c'est vraiment... Je n'arriverai pas à toutes les énumérer. Mais une des qualités qui peut naître, par exemple, c'est la compassion. Parce que si je me rends compte que celui ou celle qui est assis sur le coussin, qui médite, ou qui est en ligne pour... qui attend la nourriture, souffre, parce que réactivité, impatience, frustration, vouloir être ailleurs, quelqu'un d'autre, sentir autre chose. Si je me rends compte de ça, donc je sors de cette transe-là, je ne suis plus aussi dupe, je ne suis pas pris dans cette histoire-là, mais je me rends compte que, ah, il y a cette personne-là là, qui est très impatiente en ce moment. C'est possible que puisse naître la compassion. Ah, pas facile d'être cette personne-là en ce moment. Pas facile d'être cette personne-là en ce moment qui s'est braquée ou qui est désespérée ou il y a toute une panoplie là, d'émotions difficiles là, qui viennent nous visiter parfois. Désespoir, découragement, confusion, peur. Arrogance, inquiétude. Ok, arrête. Dans la pratique de la pleine conscience, quand ces états mentaux-là viennent nous visiter, on peut devenir pleinement conscient de ça. Et peut-être qu'une des choses qui peut arriver, c'est au lieu d'encourager ça, sans le savoir là, inconsciemment, de nourrir ça, d'encourager une spirale vers le bas peut-être, tout à coup on peut amener un peu d'accompagnement, un peu une capacité d'être un allié, un ami pour soi-même. Ah, Pascal, c'est dur, Pascal, beaucoup de confusion en ce moment dans cet être-là. Ça, c'est pas facile, la confusion. C'est pas facile vouloir être ailleurs. Ça, c'est un des trucs qui se passe souvent en retraite. On est assis, on veut marcher, on se retrouve à marcher, mais on voudrait être assis. On est assis, mais on voudrait être assis avec une bière. Plutôt que juste assis. On voudrait être assis, mais devant un écran de télé avec une film. Alors, et ça, c'est un état particulier qui, c'est bien, c'est très bien de pouvoir avoir accès à ça avec pleine conscience, de reconnaître cet état-là là, quand il est présent. Parce que je ne sais pas si c'est comme ça en Europe, mais chez nous, je nous vois souvent. Je le vois dans la façon dont on est, dans les commentaires, etc. Mais souvent, on veut être dans l'autre truc d'après. Là, on est en méditation, là, on veut aller marcher. Là, on marche, on veut l'enseignement. Là, le prof commence à enseigner. Là, on voudrait qu'il se taise pour méditer. Là, où on va au travail, on est dans l'autobus pour se rendre au travail. Puis là, on veut être rendu au travail. Puis au travail, on a hâte que la journée soit finie pour être rendu. Puis là, on est dans le bus pour se rendre à la maison. Puis là, on veut être... Puis toute la journée, ça peut être l'attitude qui nous mène toute la journée. Ou d'une tâche à l'autre. Je fais cette tâche-là pour pouvoir arriver à l'autre tâche. Quand j'arrive dans l'autre tâche, c'est pour pouvoir me rendre à l'autre. Puis là, donc, la pleine conscience nous permet de révéler ça. C'est son mandat, c'est sa fonction, c'est de révéler ce qui est en train de se passer en ce moment, comment on est engagé, quel est le rapport à ce qui se passe. Une des choses qui peut arriver aussi, c'est le choix. On peut avoir le choix. Là, si on devient conscient de ce qui se passe, on peut peut-être, pas toujours, on peut peut-être laisser tomber une certaine attitude. Ah! Parfois même, l'esprit est malléable et flexible, puis au moment où on se pose la question, comment est-ce que je suis en ce moment? Oups! Même avant qu'on y réponde, il y a quelque chose qui poussait un peu, qui relâche. Une autre des qualités qui peut naître dans le sillon de l'attention, de l'attention bienveillante, du soin qu'on porte à ce qui se passe présentement. Je le mentionnais ce matin, mais j'ai le goût de le nommer à nouveau parce qu'on a peut-être, quelques-uns d'entre nous, eu des petits moments de ça aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est le contentement. C'est le contraire du manque, du désir d'autre chose. C'est que tout à coup, waouh, quelque chose ressort que j'aurais pu facilement manquer, là, comme les bruits reliés à la fonte de la neige. Clic, 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 clic. Dans mon esprit habituel, j'aurais pu complètement manquer ça. Puis là, tout à coup, whoops, cet univers-là s'ouvre, puis ça devient un peu presque magique, merveilleux. Il y avait un jeune homme à une retraite il y a quelques semaines, je ne me souviens plus quand, pas très longtemps, qui me disait à la fin de la retraite, il me parlait de la chambre où il dormait, la petite cellule, très rien de... C'est pas un lieu extraordinaire, là, on ne mettrait pas ça dans un magazine de déco. Là. Et il disait, c'est incroyable, je connais tous les détails de cette petite pièce-là, je ne peux même pas te dire les détails de la chambre chez moi, là, dans laquelle je vis depuis plusieurs années. Mais là, tout dans cette chambre-là ressortait. Ou une autre personne, un jour, qui disait, « Le riz est tellement bon ici. Le riz est incroyablement bon. Comment vous faites le riz? » Ben, avec de l'eau, un petit peu de sel. Mais l'ingrédient particulier, c'est l'attention. C'est le nouvel ingrédient là, qui fait que tout à coup, le goût du riz est autre, là. Ressort, et c'est cet ingrédient-là là, qui fait que tout à coup il peut y avoir une expérience de richesse. Et aussi étrange que ça puisse paraître, vous le savez pour vous-même, cette qualité-là de contentement, où là maintenant je vais le décrire comme étant l'esprit qui est intéressé, engagé, cette curiosité-là, même curiosité joyeuse, même enthousiasme, ça c'est les formes que ça prend. L'esprit qui veut vraiment sentir ce que c'est que de mâcher, de respirer, de sentir le froid, le chaud, la fatigue. Puis là, l'étrangement que je présentais, c'est même ce qui est peut-être désagréable, il peut y avoir une rencontre avec ça qui est colorée par la curiosité, par l'intérêt, par même l'enthousiasme. Waouh! Sensation dans le genou, intense sensation dans le genou. Mais qu'est-ce que cette sensation? Waouh! Et là, il y a un événement qui peut se passer, c'est que même l'expérience de plaisir des plaisirs, ça devient moins clair un peu. Quand l'esprit est vraiment engagé, très curieux, quand la pleine conscience est en opérante, là, wow, vraiment engagé, pas toujours, mais parfois, tout à coup, on va dire, « Ah, normalement, je dirais que c'est désagréable, ce truc, mais en ce moment, l'esprit est tellement intrigué, curieux, cette qualité-là de l'investigation, vouloir connaître, l'exploration, c'est tellement en fonction que là, je ne peux plus dire que c'est désagréable. Je peux certainement pas dire que c'est agréable, mais je ne pourrais plus dire que c'est désagréable. Normalement, je dirais que c'est désagréable, mais là, j'ai le goût de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Imaginez amener cet esprit-là dans un conflit. Au lieu de l'esprit qui fait « je veux pas de conflit, j'ai peur des conflits, je déteste les conflits, je me hais l'autre pour le conflit », un esprit qui tout à coup fait « ah, nous deux, on ne se comprend vraiment pas. Qu'est-ce que c'est intriguant? Qu'est-ce que c'est que de ne pas se comprendre? Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est touchant. C'est incroyable. Là, je vois, je ne suis pas vu comme je voudrais être vu. Je ne vois pas l'autre de la façon dont il voudrait être vu. Waouh, fascinant les relations humaines. Avec de la pleine conscience, de l'intérêt pour ce qui se passe. Pas ce qui devrait se passer, mais ce qui est véritablement en train de se passer. » Parfois, j'ai des, comme plusieurs d'entre nous, j'imagine, des moments d'anxiété. Là, je m'assois sur le coussin, puis si les conditions sont justes, il peut y avoir comme... C'est un mélange, en fait, de compassion, dont je parlais plus tôt, capacité d'être... Bien, il y a plusieurs choses, là. Il y a de la stabilité, la capacité de ressentir l'anxiété, la contraction du cœur ou de la gorge, la pression, assez désagréable, mais avec une certaine, là je sens parfois avec beaucoup de gratitude d'ailleurs, une certaine stabilité, la capacité d'être au milieu de cet événement-là. Ah, puis je le nomme comme ça parce que je ne le prends pas personnel. Pour moi, c'est vraiment le cause à effet de la pratique. Alors, ce n'est pas personnel, c'est la pratique qui peut faire ça. Que je me retrouve là, puis je me dis, ah, avant, il y aurait eu une implosion, un découragement, un désespoir, la peur, l'évitement, plein de trucs se seraient mis en branle, là, tu sais, qui n'auraient pas été aidants. Et puis là, tout à coup, on sait que c'est vraiment bien s'il y a de la stabilité, c'est vraiment bien s'il y a beaucoup de compassion. Ah, Pascal, anxiété, pas facile, incertain, c'est incertain ce qui va arriver, et c'est dur d'être très au courant, conscient de l'incertitude. Alors là, ça presse sur le cœur en ce moment. Alors de la stabilité, de la compassion, puis aussi cette... peut-être un peu de courage. Il y a tellement... Là, je suis en train de nommer les qualités que moi je vois chez moi et chez les étudiants, chez les... qui sont développées dans le sillon. Alors le courage aussi, c'en est un autre. Qui se développe naturellement. Quand l'esprit est engagé, de plus en plus stable, tout à coup, on veut être là au milieu de ce qui se passe. Pas être ailleurs, mais être là. Le courage, comme ça vient un produit dérivé de la pratique. Alors, je suis toujours en train, là, moi, un peu de répondre à pourquoi on fait ça, parce que je sais que des fois, au milieu de l'après-midi, de la première journée, on peut vraiment se demander pourquoi on est là. Pas tout. Ça, c'est possible qu'on ait ces questionnements. Pourquoi? Qu'allait-il faire dans cette galère? pourquoi on fait ce qu'on fait aussi, parce que, et c'est pas une erreur, parce que les tendances de l'esprit sont révélées, on voit. Est-ce que tu peux t'asseoir là, quelques minutes, rien n'est exigé de toi, et puis tout à coup ça devient épique. Le passé débarque, le futur, les questionnements intérieurs, alors que c'est très simple, là. Peux-tu t'asseoir, peux-tu marcher aller-retour quelques minutes? On voit là, que les tendances de l'esprit, de la psyché sont révélées, comment on peut créer, comment le mental lui-même, le conditionnement crée le trouble. Puis donc, pourquoi on fait ça? C'est pour que ça soit révélé un peu. Puis peut-être apprendre comment abandonner certaines façons d'être, comment ne pas nourrir certaines façons d'être. Puis dans ce sens-là, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans la pratique. On a l'image là, de quelqu'un assis au sommet de l'Himalaya, les cheveux au vent, le châle en pashmina, et puis ça flotte presque au-dessus des rochers, le soleil couchant constamment. Et là, on s'assoit, nous, pour pratiquer, puis on est poussé intérieurement de tous bords, tous côtés. On voit toutes sortes de choses, juste un exemple des nombreuses choses qu'on voit. J'espère que vous allez avoir, que vous allez m'aimer quand même quand je vais raconter ça. Je me souviens une fois, j'étais en retraite, puis on passait de l'assise à la marche méditative. Je mets mon parka et je viens pour ouvrir la porte pour sortir vers l'extérieur. Et il y avait une fenêtre sur le côté, alors je vois quelqu'un qui arrivait pour... Alors moi, j'allais pousser la porte, puis la personne, elle arrivait comme ça pour aller prendre la poignée pour ouvrir la porte. Et elle ne me voyait pas, mais moi, je l'ai vu arriver, là. Je voyais que la personne allait... Et au lieu de la laisser ouvrir la porte pour qu'il n'y ait pas de surprise, j'ai poussé sur la porte pour... C'était un geste cruel. C'était pour surprendre la personne. C'était vraiment... c'était salaud. Mais c'était pas bon, c'était pas... Mais quand même, il y avait une dissonance cognitive, là, je me connais pas, comme j'aime pas me décrire comme quelqu'un de cruel. Et pourtant, il y avait cet événement-là est réellement arrivé, mais là, malheureusement, il y avait eu de la pleine conscience avant, alors j'étais pleine... Non, pas malheureusement, heureusement, il y avait eu de la pleine conscience juste avant. Alors, j'ai vu ce truc-là se faire, et là, je me suis dit, ben, en fait, c'est des très mauvaises nouvelles, mais j'aime mieux être au courant, je veux être au courant de ça, parce que ça a trouvé son chemin dans ma psyché, je veux vraiment être conscient de ce genre de truc-là, parce que je veux pas agir, c'est pas en ligne avec mes valeurs, là. Mais pourtant, oui, il faut vraiment assumer, là, que ça vient d'être fait, ce geste-là. Et il n'y avait pas de faute, la personne a souri. Mais quand même, moi, je sais que dans l'esprit, il y avait vraiment le désir de surprendre quelqu'un. Pas blague, c'était pas trop blague. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de pas... on va être attentif parce que ça risque de se représenter. Et puis... J'aime mieux être très, très conscient de ce genre de truc-là pour être responsable de ça, peut-être avoir le choix juste avant de ne pas agir sur une telle impulsion. Et c'est jamais réapparu après. mais c'est ça, c'est la note. Puis, bon, ce qui peut être aidant... Là-dedans aussi, cette idée-là, c'est la nature humaine. Si je le prends personnel, si j'en fais un cas personnel, ça fait de moi une personne cruelle. Ça ajoute un degré de complexité, là, de difficulté. Alors que si je le vois comme « Ah, wow, la psyché humaine, c'est capable de ça. L'être humain est capable de ça. » Tout à coup, c'est moins isolant un peu. T'sais. Ça n'enlève pas que je peux être très responsable de ça, mais il n'y a pas l'identification complète. Là. C'est pas juste une description de Pascal, l'être qui n'appartient pas à l'humanité. Tu sais. C'est ça aussi l'humanité. C'est bien d'être au courant de ça. Alors, une façon dont Ajahn Chah, certains d'entre vous connaissent peut-être ce maître-là, Thai, de la forêt Thai, qui est décédé maintenant depuis un certain nombre d'années, plusieurs livres disponibles en français, en anglais aussi, de magnifiques enseignants, très inspirants, profonds, belle profondeur. Il y a une citation, une histoire de lui qui revient souvent où il dit quelque chose, je paraphrase un peu là, mais assis-toi là, porte attention à ce qui se passe, calme ton esprit, tu vas voir toutes sortes de choses incroyable se révéler, un peu comme si tu allais dans la forêt au bord d'un lac calme, tu ne bougeais plus pendant quelques heures. Il y a un moment où toutes sortes d'animaux étonnants viendraient boire, s'abreuver, puis tu aurais accès à ça. Alors quand on s'assoit comme ça, puis on laisse tomber la liste de choses à faire, ce qui nous habite normalement, notre esprit, puis on passe, entre autres, par les sens pour justement abandonner quelque chose. En gardant l'attention sur la respiration, sur les sons, on calme l'esprit, on le stabilise. Puis là, il y a des choses qui vont apparaître. Certaines très belles, comme ce que je disais là, dans le sillon de l'attention, il y a des belles qualités qui naissent. On peut voir ça. Pas juste voir, c'est pas la théorie, là, on sent. On sent le calme joyeux, le calme équanime, l'agitation avec inquiétude, l'agitation physique, l'agitation mentale, toutes ces bêtes-là sont révélées, on a accès à ça de façon tridimensionnelle, on pourrait dire. Hein. C'est pas de la théorie, c'est pas des idées, là. On baigne dedans. Une enseignante, Catherine McGee, qui enseigne à Gaia House en Angleterre, avec qui j'ai eu la chance d'enseigner l'année dernière au Insight Meditation Society au Massachusetts, puis elle a dit une chose que j'ai trouvé tellement juste dans sa description de la pratique, puis ça m'a beaucoup inspiré à continuer pas que je considérais lâcher, il n'y a aucune considération de ce genre-là, mais ça m'a donné beaucoup d'énergie. C'était une chose très simple, elle a dit, la transformation, c'est pas possible dans un esprit rigide. Il faut que j'arrête de faire ça, je fais toujours ça, c'est plus possible, il faut absolument que j'arrête maintenant. Ok, bonne chance. Ça va pas être facile. La transformation, c'est pas possible dans un esprit rigide. C'est possible dans un esprit souple, malléable, parce que transformable, malléable, flexible. Ce qu'on fait ici, c'est ça. On amène de la flexibilité dans l'esprit. On calme, on rend l'esprit plus fluide avec la bienveillance, la compassion, le calme, l'honnêteté, le courage, tout ça, on pourrait dire l'esprit plus souple. Et là-dedans, des transformations sont possibles. Alors si, par exemple, vous êtes assis avec tout à coup une grande vague ou une plage de ressentiment, ça serait très bien qu'il y ait de la pleine conscience, qu'il y ait de la compassion. Ah, le ressentiment. Ça, c'est pas facile de vivre le ressentiment. Alors, tout ce qui va amener de la souplesse, là, au lieu de... Puis donc, c'est ce qu'on fait ici, là. On assouplit l'esprit, le cœur. puis là-dedans, oups, quelque chose de nouveau peut surgir, une nouvelle réponse, une nouvelle façon d'être, d'aborder les choses qui peut naître de ce silence-là, de cette souplesse-là de l'esprit. Les transformations sont pas... Là, je semble parler des habitudes, certaines façons d'être, mais la transformation dont on parle va beaucoup plus loin que ça. Les transformations de perception, par exemple, la façon de me sentir séparé du monde. C'est des perceptions là, très solides, très conditionnées. Là, on peut même être là, entendre ça et se dire « De quoi tu parles? Évidemment que je suis séparé du monde. » C'est même pas, ça paraît même pas être une perception, mais une description exacte de la réalité. Quand on assouplit l'esprit, on le rend plus malléable comme ça, on peut voir ça, que les choses qui semblent personnelles ne le sont peut-être pas tant que ça. Que si, par exemple, je me promène avec une perception que je suis au-dessus des autres, plus le meilleur méditant, la meilleure méditante, ou quelque chose comme ça, au-dessus. Là. C'est très douloureux, ça, comme vision de soi, du monde. Alors, avec un esprit plus souple, avec une attention soutenue, on peut déloger ces perceptions-là. Ou la perception inverse, aussi douloureuse. Je suis en dessous de tout le monde, je n'appartiens pas à la nature des choses. Je suis l'exception, l'erreur. Je nomme quelque chose, mais des fois, c'est pas en autant de mots, là, mais c'est comme une légère impression qui se glisse ici et là. Je te rappelle que... Ou un genre d'impression un peu vague. En étant particulièrement attentif, on peut éclairer, mettre de l'éclairage là-dessus. Tiens, je vous en raconte une autre qui était assez... C'est des petites choses, mais... Je suis en ligne, on fait la queue pour le repas. Et là, il y a un plat avec les ustensiles qui dépassent, comme les fourchettes, les cuillères, comme ça. On ne les voit pas, là. Ils sont tout comme ça. Bon. Et bon, c'est la soupe le soir. Alors moi, je tire sur une cuillère pour avoir la... J'ai droit à une cuillère quand même avec mon bol. Alors je tire sur la cuillère et ce qui sort, c'est une immense cuillère qui sert une cuillère de service, en fait. Et là, je suis dans la ligne, il y a plein de gens derrière, deux lignes. Là, j'ai tout à coup l'impression que tout le monde me voit dans ma gourmandise qui me prend une cuillère énorme. Mais en fait la cuillère, c'était un des manches qui dépassait que j'ai pris. Mais puis tout à coup, à cause de la pleine conscience avant, tout à coup, c'est révélé, waouh, ce sentiment-là d'être mauvais, d'exagérer, je ne sais pas comment je pourrais nommer ce... Voyez-vous un peu de ce dont je parle? Va se coller à un événement comme celui-ci, va me prêter une intention qui n'est absolument pas là, juste le hasard fait que ceci sort, et ça me décrit tout à coup comme une personne horrible, qui veut absolument en avoir plus que les autres, etc. Puis là, tout à coup, j'ai honte, je veux disparaître, je voudrais ne pas exister, j'ai un désir de non-existence, je voudrais disparaître, on m'a vu comme ça. Puis là, tout à coup, avec la pleine conscience, c'est révélé ce truc. J'aime mieux que ce soit révélé pour pas être mu par ça dans ma vie. Puis là, tout à coup, waouh, c'est incroyable. C'est latent, cette tendance-là, elle est latente, dormante, et elle va se jeter sur n'importe quelle situation qui pourrait s'y prêter. Là. Quelle est la tendance chez vous? C'est laquelle, la vôtre? Ou quelles sont-elles? Parce qu'il y en a probablement une et une autre, et encore une autre. Dans la pratique de l'attention soutenue, on voit ces trucs-là surgir. Un autre choc que j'ai eu, bon, il s'en va dans des histoires de retraite. On ne peut pas le retenir. Non, il y a encore 9 minutes. Il se donne encore 9 minutes. Une fois, je vais en retraite, puis il arrive un événement. En fait, je peux vous le raconter, ça peut vous intéresser. Il y avait un grand vent, très grand. Il y avait un orage, en fait. Et au centre où j'étais en retraite, il y a des grands arbres, un peu comme ici, les sapins énormes, gigantesques, centenaires, peut-être plus, qui étaient là depuis plusieurs années que j'allais à ce centre-là. Puis donc là, ils nous disent, s'il vous plaît, ne sortez pas à l'extérieur parce que le vent est très, très fort. Qu'est-ce que Pascal fait? Tout de suite, on file son parka, vérifie à la porte s'il ne peut pas être cruel avec quelqu'un. Et je sors juste devant la porte pour regarder la nature. Et là, il y a un arbre qui tombe, pas sur moi, mais un de ces arbres-là gigantesques qui fait comme... Et qui tombe. C'était énorme. Bon, là, on rigole, mais pour moi, ça a tourné autrement. C'est vraiment intéressant. Il y avait quelque chose de très, très important que j'avais perdu dans ma vie quelques années auparavant. Quelque chose qui me semblait solide, permanent. En anglais, on dirait « reliable », on peut compter sur ça. Et tout à coup, c'était complètement disparu, ce truc-là. Je suis certain que plusieurs d'entre nous ici, on a notre propre histoire de ça, de quelque chose qui semblait être à moi, ou solide, ou sur quoi on pouvait compter, puis que tout à coup, poum, disparaît. Et en voyant l'arbre tomber, je ne sais pas pourquoi, c'était comme un symbole de ce truc-là. Puis là, tout à coup, au redépart du deuil. Alors, tout à coup, tout s'effondre en moi, mais là, avec plus de pleine conscience, avec du temps, de l'espace. Puis là, j'ai l'impression, 3 jours plus tard, j'ai l'impression que ça fait 3 jours que je suis entré dans un deuil, je revis cette affaire-là, je revisite ce truc-là. Moi, c'est la nature des choses, il y a des choses qu'on doit revisiter comme ça. Et donc, je passe beaucoup de temps assis dehors, près de l'arbre, juste comme... qu'il faut que je reste là à reconnaître ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a seulement le deuil, juste ça comme expérience. Le deuil assis, le deuil debout, le deuil dans le lit, le deuil, le deuil, le deuil. Et là, il y a un moment où je suis assis dehors avec l'arbre et la cloche, comme ici, sonne pour le lunch. Et cette journée-là, j'avais remarqué qu'il préparait, en regardant un peu dans la cuisine, j'avais vu les poivrons rouges, jaunes, verts, en tout cas tous les trucs là. À cet endroit-là, ça voulait dire pizza. Et donc là, je suis assis dans le deuil, et là, la cloche sonne, ding! Et tout à coup, boum, je me lève. Et je tourne comme ça, j'abandonne complètement mon deuil, complètement l'arbre, pour à peu près 2 secondes, 1 seconde et demie, quelque chose, mais juste le temps que le corps se lève. Pizza! Et là, le deuil revient. Tout à coup, ça retombe avec cette lourdeur-là là, qu'on connaît à ce genre de truc-là, là, très, très lourd. Mais à cause de la pleine conscience, tout à coup, j'ai vraiment vu. J'aurais pu manquer ça, là. Puis continuer à croire que le deuil, c'était quelque chose de solide. Mais tout à coup, j'ai vu le côté absolument éphémère et conditionnel de ce phénomène-là, qui était non existant pendant cette seconde-là. Absolument non existant dans l'expérience humaine, là, dans cette expérience-là. Disparu. Puis là, oups, c'est revenu. Puis donc, là, le boulot, c'était de bien s'en occuper. Mais il y a quand même quelque chose qui, moi, m'a ébranlé profondément sur la nature éphémère des choses, instable. Même les choses qui paraissent bien installées, indélogeables, solides, graves, sérieuses. Tout à coup, il y avait un voile, comme si on voyait derrière le tour du magicien. Là. Puis là, tout à coup, oups, c'était revenu. C'était aussi solide, aussi sérieux, mais... Je sais pas, il y avait une petite différence. J'étais pas cynique tout à coup à propos du deuil. Je voyais très bien qu'il fallait bien s'occuper de cet état mental-là qui est difficile, qui est toutes sortes de choses, parce que ça bouge un deuil aussi, là, cette expérience-là de la perte. Mais aussi que c'est quelque chose qui dans sa nature peut-être la plus profonde, est absolument éphémère, conditionnelle, instable, changeante. Donc, il y avait une transformation là, de la perception des choses. Alors peut-être que je peux finir en disant quelque chose comme on est toujours attentif. La méthodologie ici, c'est une façon d'utiliser l'attention pour libérer le cœur, libérer l'esprit, clarifier les choses, si vous préférez un terme comme celui-là. On est toujours en train de donner l'attention, mais parfois on donne l'attention sans le savoir d'une façon qui est enchaînante. Et là, on dit, bon, Pascal, tu es assis sur le coussin, tu pourrais passer les 30 minutes à penser à la planification de l'année de façon habituelle ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui te manque dans ta vie, ce que tu voudrais avoir, tout ça. Tu pourrais mettre ton attention sur toutes sortes de choses comme celle-là ou tu pourrais mettre ton attention sur tes narines. Puis on pourrait se dire, ah, ben, c'est un peu étrange. Qu'est-ce que ça vaut? Ben, ça vaut beaucoup. Il semblerait que c'est un meilleur choix de mettre l'attention sur les narines pour révéler la nature profonde de la réalité, pour développer la sagesse, la compassion, juste sentir l'air qui entre, quelque chose qui se passe présentement. En fait, je blague un peu avec les narines, mais c'est vrai. Parce que la première fois que j'ai médité, c'était les instructions. Donc, je vais dans un centre de méditation pour apprendre à être plus sage. Puis on me dit, tu veux être plus sage? Mets l'attention sur tes narines. Puis pour moi, c'était une proposition un peu étonnante. Je me disais, ah, le Bouddha, il a trouvé vraiment... C'est incroyable qu'il ait trouvé le chemin, parce que moi, je n'aurais pas trouvé le chemin par les narines. Et donc, c'est un peu ça qu'on fait. Là. On dit, oui, c'est vrai que tes problèmes sont incroyablement importants, graves et confondants. Et peux-tu entendre la neige qui fond? Probablement que la solution... Peut-être que la solution à tes problèmes est plus là-dedans que dans ressasser et toute autre activité connexe. Alors j'espère que dans ces quelques paroles-là, il y avait un petit quelque chose qui va vous permettre qui va vous inspirer, vous permettre de continuer la pratique là où on va inviter dans une quinzaine de minutes le sens du goût, le sens de... Ben, tous les sens là, vont être invités dans cette... au repas préparé avec beaucoup de générosité par Geneviève. Prenons juste un moment pour entendre le silence. Que la pratique qu'on fait nous aide à défaire les chaînes qui nous empêchent d'avoir une expérience de bien-être. Puis que la pratique qu'on fait aussi nous aide à contribuer au bien-être des autres. À les protéger, puis à leur offrir une liberté aussi, qui soit grande, profonde.